R22 Tout Monde, Antenne La Fabrique Fantôme.
Moi, je voulais revenir peut-être pour introduire ce film Mermaids. Bon, il y a plusieurs manières de l'introduire, mais peut-être redonner des éléments aussi de lecture dont Barbara a parlé ce matin et dont tu as parlé. I would like to introduce the film, perhaps talk about some elements that we talk this morning about what a dreaming is. I think it's we even didn't translate it in the film. On n'a pas traduit en fait le terme dreaming, ce qui est une expression très spécifique et dont Barbara Glubanski a parlé ce matin et également Elisabeth. So perhaps for the audience of the evening, it will be nice first to come back to that idea, concept, form of practice of the dreamings in the context of the indigenous scene. Oswale. Right.
I would just like to start that I'm one of, we always say 30, but we counted, and there are about 70 of us, counting all the little kids and everything, and 9 of us have been together up until a week ago, 2 weeks ago in the U.S., so it's a little weird for me to be sitting here myself.
Donc là, c'est pour dire que déjà, on est près d'une cinquantaine, voire on peut être même beaucoup plus représentant les Carombings, so c'est un peu bizarre pour moi d'être seul ici pour parler, c'est un groupe assez large de personnes.
At the, on May 2nd, we will be at, there, 4 of us will be at CFP, screening maybe Mermaids Again and Nighttime Go, so there will be more than just me there.
Il y en a 4 ou 5 d'autres qui seront ici. What is CFP?
Center for Freedom something.
Where?
Paris.
Ah, it's in Paris. Yeah, okay. Ah,
I don't know.
I don't know. Pour dire qu'il y aura une autre occasion de voir Elisabeth avec les Caribbean un peu en plus. Is that CICP?
Which one?
CICP? It could be CICP. I don't know. Or the Center for Freedom in Paris. There is not a lot of freedom. Yeah, I don't know. Yeah. En tout cas, il y aura une autre occasion de voir Elisabeth avec les Caribbean. Juste pour dire que habituellement, ces interventions sont des interventions qui sont avec d'autres membres du Caribbean. Et c'est assez rare qu'elle intervienne toute seule. Mais là, c'est dans le cadre du séminaire.
But so let me start with the way in which we're often asked individually or when we're on stage together to explain the dreaming. And I thought Barbara did a great job today. I will say how members typically talk about it. For instance, Rex Edmonds. And what he will say is that the dreaming is both a place that was formed in relation to other places when the geography of the world as formed, as a morphology, came into being. And for instance, he says, and I'm just, because he's been leading this conversation, his dreaming is a kind of fish, a saltwater fish, and it has a place that is, if you know how to see, you can see it in a reef. The reef is formed that way, and it came to be formed because of a relationship with another sister Barramundi who went somewhere else. And that place, as he puts it, is both there and in his body and his kid's body. And the phrase ancestral present is I think a good way of saying it. It's not something that happened in the past. It keeps happening. And it is in the same time space as he's in.
Yeah, so it won't be a translation as you can imagine, but I will try to say something about the dreaming. So, évidemment, en fait, Elisabeth dit la question du dreaming n'est pas facile à exprimer puisqu'elle dépend en fait de la personne qui va en parler. Et donc ça peut être plusieurs types de formes. On peut considérer que le dreaming, c'est d'abord la relation entre un endroit et un autre endroit, créée à partir du moment où le monde se crée et qui peut prendre différentes formes. Là, on parlait de cette forme du poisson. Who is talking about the fish for dreaming?
Rexon.
Donc voilà, par exemple, un dreaming peut prendre la forme d'un poisson qui va être à la fois une forme qui a un endroit précis, comme un endroit d'où cette forme vient, et un endroit où elle peut se déplacer. Mais de la même manière, le dreaming, c'est quelque chose qui est dans le corps de la personne qui va le... Qui, qui, qui a ce dreaming comme dans le corps de ses enfants, comme, et on pourrait dire en fait que c'est une forme de présence des ancêtres, c'est une manière de le dire en tout cas qui est un peu, qui est la plus directe, mais qui est aussi cette idée de circulation, de quelque chose qui est en mouvement. Yeah, something is a movement in between some a dreaming, something coming from someone and some is a kind
There were
of
two sisters and they swirling and one went this way and became fresh water and one went that way and be, and lay down and formed this point in a reef. And if you, you know how to look, you look at it and you can see it is a, it is the muddy, the Barramundi dreaming. You, if you know how to look.
Yeah, donc, yeah. Il y a donc effectivement une question d'observation dans ce mouvement qui a à la fois une dimension un peu abstraite, en tout cas des choses qui vont dans différentes directions, qui créent un espèce de lieu, encore une fois qu'on peut voir si on sait le voir. Donc à la fois c'est aussi l'idée d'une espèce de mouvement qui va dans plusieurs directions et qui trouve un espèce d'endroit de, dans lequel est le dreaming. Mais, et à la fois tu as dit aussi au début qu'il est important qu'il y ait une certaine relation à une certaine appréhension de la géographie. But perhaps not the, as the geography is coded in the Western culture. It's a, c'est une manière de coder, la, de penser l'espace et la géographie.
Yeah, so it's a fundamental relationship that is passed down between place and person, but also between places and other places. So it doesn't sit as people do not sit in and of themselves, but always in an obligatory co-constitution with other people. So places and so people in places.
Donc voilà, c'est à la fois quelque chose qui est ni tout à fait en fait de l'ordre d'une ontologie de la personne, ce n'est plus tout à fait une question de, d'espace, mais quelque chose qui est une espèce de relation de coproduction entre ce qu'est un espace, ce qu'est une personne, et aussi des relations entre les différentes personnes et les différents espaces. En tout cas, voilà, une géographie constituée de relations. But in the dreaming, there is also if I understand well, a kind of totemic dimension, because there is some animals. Il y a des animaux aussi qui représentent ces dreaming. I don't know if the, each time it's the case. Of
every family, we say, picks up a dreaming, right? So yeah, in the language of anthropology, it's totemic versus animistic. It could be there's a hernia dreaming. There's wind dreaming, there's you know, it doesn't discriminate on the basis of non-life or life or atmospheric or biological. It's all, but it is a mark in existence, geographical, meteorological. It is mark in existence of events that happened and continue to happen.
Voilà, c'est à la fois
that are passed in bodies and in land in relation. Yeah.
À chaque fois, effectivement, le corps va être aussi l'espace de traduction d'événements qui se sont passés et qui continuent à se passer. Donc là, un rapport de transition et que même s'il y a une dimension qu'on pourrait nommer totémique, pour l'opposer dans un cadre anthropologique à la question animiste, cette forme totémique, elle n'a pas forcément, elle n'est pas discriminante entre les différents aspects. Ça peut être aussi des éléments, du vent, un animal. Et c'est d'abord quelque chose qui va être quelque chose qui a attrapé, mais qui est en rapport avec une espèce d'expérience de relation. It's something that you have a relation with in the context of the living. Donc quelque chose qui est une relation qui se crée, à travers cette relation-là, c'est aussi la circulation des événements à travers le corps et avec cette chose-là dans l'espace.
Right. Let's say that. Right. Simple. So
no, it's not simple to say, but I think it's hard to explain, but I think it's an issue. I think c'est difficile à expliquer, mais je pense que ça a un sens parce que justement ça interpelle un rapport espace-temps, savoir, mémoire. It makes some kind of category of knowledge of the Western culture, which is difficult to name. So if it's hard that it's difficult to describe in certain way.
Yeah. So what I love about mermaids is that I really think it touches on something that Barbara was speaking so clearly about. That is, there is a at the order of the virtual, there's a continuity. Like, so you have the mermaid in the mermaids talking about the end of the world, saying before the white man came, the world was great. You know, we just laid around and got fat, basically. But now we can't come out in the moonlight anymore. What's for me really interesting about, and again, it's all extemp. There's no script. So the direction was, you know, you have to answer Kieran, who says, what was the world like before? Mm. And we all look at what Posey, who plays the mermaid, is going to say, and that's what she said, so the poetics come out. There's a mermaid. It's not like there was an enchanted world and it became disenchanted. That's not what the movie is. Instead, you have a mermaid who has continued. So in the realm of the virtual, I would say there's radical continuity. And you have, and all those are dreaming. So the girl that moves around and says, food, food, food. Well, that's Cheapel, who is a creek nearby the muddy dreaming, Bear Mundy dreaming. And she dressed up like a young guy and went out. She made the creek by dressing up like a young guy. She went out hunting. She got in a fight with an old guy. And she laid down and her body became the creek. That's Cheapel. So in this world, she's still Cheapel, i.e. she's out hunting, but there's no food. There's still mermaids. There's still moving children. But because of the discontinuity of the actual, they're doing it and struggling to not do it in a different way. So that's, I think the film is exemplary of that kind of struggle between the
virtual and the actual.
Well, the claim that, no, it is colonialization does not have the power to destroy absolutely, right?
Je tente une traduction. Non, c'est juste pour dire peut-être aussi partager avec vous ces concepts voilà d'une cosmogonie d'une pensée aborigène avec la partie qui va être souterraine, on va dire, qui est la partie virtuelle. Qui représente aussi une forme de spiritualité et une forme de continuité, et la partie qui est dite, actuelle, qui est en fait une partie en surface qui, elle, peut se modifier. Et le film joue sur ces deux niveaux-là, à la fois une forme de continuité d'un esprit profond, qui est ce qu'on appelle le virtuel, qui serait souterrain. Les sirènes existaient avant, elles existent encore. Ce n'est pas la question de l'existence même de certaines formes de vie ou de forme qui est mise en jeu là, mais c'est plutôt leur actualisation à la surface, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles peuvent objectivement faire ou qu'est-ce qu'elles ne faisaient pas avant et qu'elles font aujourd'hui. Mais donc c'est aussi à la fois une forme d'expression d'une forme de résistance culturelle au sens que le virtuel reste continu, les figures du virtuel sont toujours là, mais effectivement dans la partie actuelle, actualisée de leur existence, elles font d'autres choses, soit parce qu'elles ne peuvent pas se nourrir, soit parce qu'elles deviennent plus maléfiques qu'elles étaient auparavant. Et donc, il y a vraiment cette expression-là de ce que le moment colonial vient interrompre dans la partie actuelle, mais ne peut pas toucher dans la partie virtuelle. Donc, il y a quand même une espèce de rapport, une balance entre ces deux. Voilà. Tout n'est pas détruit, mais l'actualisation est quand même très violente.
And to thicken the complexity of it, you have a film that's, you know, you have the mermaid, you have Kieran looking at Cheapel go pouf. Like, you know, poof and poof, and end of the world. But the end of the world is not the end of the dreaming, it's the action of the dreaming. That is, there's continuity in this discontinuous actuality, as it is the dreaming that continues, right? At the end of the world. So the end means something radically different than what it would mean in the philosophy of finitude, et cetera, et cetera.
Oui, c'est pour dire que voilà, pour revenir juste aussi avant un petit peu, pour dire dans la méthode de travail de Carabing, il y a aussi des conversations qui deviennent des éléments du script, notamment les questions de Kieran, qui est le jeune enfant ici, qui questionne en fait comment le monde était avant. Donc ça, c'est le rapport virtuel et actuel. Et effectivement, arrive un moment donné où il y a une forme de fin du monde qui n'a pas tout à fait le même sens, encore une fois, qu'une fin du monde telle qu'on pourrait la comprendre ici en Occident, au sens qu'encore une fois, c'est une fin du monde dans la partie actualisée, donc dans l'action du dreaming, mais pas dans la partie virtuelle. Les figures, le virtuel is keep on being there, but is making something at the moment of the end of the world. Donc le moment de la fin du monde est une forme de moment en surface, on va dire, et qui est un moment actualisable. Donc, il va se passer autre chose après la fin du monde. Mais les figures qui animent la cosmogonie, elles vont faire quelque chose dans la fin du monde, comme un espèce de moment qui n'interrompt pas, mais qui crée une discontinuité. It's more discontinuity than an end, in a certain way.
And then in the practice of making, and we were talking about this in the errantness of the making, because again, nothing scripted, including what Aiden, who is the young man thrown out of the experiment, what he's going to do at the end of the film. Like we get to the mud place, what will Aiden do? Nobody knows. We don't even know what exactly we're doing. Mm. And so Trevor says what he says about, I could do this. Mm. And then we switch the little iPhone over to Aiden, and he's like, so in the acting, he actualizes for himself becoming the pelican. Mm. Yeah. So in the practice of the making of the film, so you have the film and the making of the film, you're taking the virtual and testing out, actualizing, continuing to actualize it in radically different situations, contexts, and et cetera. Mm. Yeah.
Il y a cette idée en fait que bon, le film n'est pas un film où il y a un script au départ, si ce n'est en fait la scène où, où le jeune homme qui a été le sujet d'une expérience en fait est rejeté dans le fameux monde extérieur. Il est rejeté en dehors de l'expérience qui est finalement l'endroit toxique de vie de sa communauté qu'il va retrouver. Et la question dans ce moment où il est rejeté dans ce monde extérieur, c'est que faire? Donc là, il y a une action très simple qui est dit aller à l'endroit de la flaque de boue et faire cette espèce de geste comme ça d'excavation sans qu'il y ait dans le script l'idée de ce que veut dire le geste, si ce n'est plonger dans le virtuel et l'actualiser dans l'actuel, c'est tout. C'est-à-dire comme une espèce d'idée, mais dont même qui n'est pas une idée conclusive, qui n'est pas une solution, qui n'est pas un projet, qui est juste une manière de pratiquer le présent, to practice the present.
And I think that's what you and Louis were talking about today. I mean, in the errantness or the spiraling of the making, if you allow it to be open, then that you allow a possibility of like the plunging into the virtual to pull out in the way that individual in relation to family finds themselves. I mean, I don't know how to say it, but it's like Aiden has to decide how he responds, right? Not I tell Aiden or Trevor tells Aiden or, you know, Posey tells Aiden. No. Like, what will you do? And that constitutes him actually in the moment of response. I mean, and different ones, different kind of, it's so people come to find their relationship in the errancy of the,
Oui, et je pense que c'est aussi une chose qui est assez dans l'esprit de ce que Sarah Mudi vous avait présenté, donc là c'est moi et Louis, à propos de ce groupe d'haïtiens errants qui, comme action de construction d'un futur, errent à la recherche d'eux-mêmes, c'est-à-dire se cherchent eux-mêmes dans un paysage possible. Et là, l'action aussi de creuser de chacun des personnages ne dit pas autre chose qu'une recherche d'un nouveau état. Il faut dire que c'est dans un contexte qui est toxique, donc c'est la capacité aussi à inventer peut-être une vie after the end of the world, donc une vie après cette fin du monde, mais pas une fin tragique, mais une fin comme un contexte, le contexte de la fin, et de chercher soi-même une forme de devenir dans une forme d'errance qui serait peut-être le contraire d'un projet, c'est-à-dire de quelque chose où on sait déjà ce qu'on va être ou ce qu'on veut devenir, et plutôt une pratique dans un geste. Ici, c'est cette espèce, a kind of spiral in that sense. in that sense.
So that explains the dreaming.
Si vous avez, well, it was the first point explanation of dreaming. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Moi, je peux partager le micro avec Elisabeth. Et puis,
How long did the film take to make?
We are often asked that, and we always stumble. We don't know how to.
I guess a better question would be like, how many runs did you have to do? Was it like one time, okay, we're going to do this, or like how much was chopped up and that kind of thing?
Yeah, the way we make films is someone in the group comes up with an idea. So in this case, Aiden, who's the young guy in the experiment, he came up with the idea that he'd been taken away as a child, and it parallels the Stolen Generation. I don't know if you... he had been stolen as a kid, and he comes back, and he learns about his country. Okay, so that was basically... And it parallels his own life, because his mom... I'll say two daughters of mine, and the mermaid's daughters, who's a sister. Anyways, it doesn't matter. So there's two sisters, and one sister raised her, this is in the real, one sister raised her kids on the community, which is, it was more rural, but the infrastructures made it less rural. And one sister took her kids to the city, Darwin, and decisions about education, et cetera. Aiden's mom was the sister that took him to Darwin. And then they went to Brisbane, and with an idea that, you know, what about jobs? What about school? Which you would, you know, we know you don't get that on communities. So he actually, as he says in Q&A, he wasn't really raised with his extended family and with the Kotobing. So he pulled the story out of his world. And other members were like,
Très vite. Non, très vite pour dire, voilà, la question c'est combien de temps ils ont pris pour faire le film. Et donc là, elle faisait aussi, Elisabeth, un détour pour montrer aussi que faire un film pour le Carabing, c'est d'abord partir d'une idée d'un des membres. Là, c'est Aiden, qui est le jeune homme qui, dans l'histoire, a été capturé par une expérience par les colons et a été rejeté ensuite dans sa communauté, qui vient d'une vraie histoire de deux sœurs des Carabing, l'une qui a décidé d'élever ses enfants dans la communauté, donc vraiment dans ce contexte-là, et lui, Hayden, qui a été éduqué en ville avec cette perspective d'avoir une meilleure éducation. Et donc, il revient, lui, avec cette histoire-là, qui est un peu la mise en science-fiction de l'idée d'avoir été éduqué dans une expérience blanche. Et donc, ensuite, il revient dans sa communauté Carabing, mais il n'a pas grandi, en fait, dans cette communauté. Donc, le film impose cette métaphore-là de ce que devient un enfant qui n'a pas été éduqué dans le contexte de la « in the mud of the family », in certain way, dans la boue familiale, et qui donc vient d'une autre expérience et qui doit réintégrer, en fait, un contexte. Donc, le film métaphorise aussi ça.
So that is a, you know, someone comes up and then everyone else puts in their two cents, argues. So that takes time.
Oh, I have a question. Do you guys just like...
We just make it up.
Not make it up, but like, is there like a vote or something? Like, this is a good idea and we're going to do it? Or
no
is it just
vote.
Someone's just like, we're going to do this and then it just happens?
No, it's just like there's a general idea that Aiden has an idea. Yeah, Aiden has an idea. Okay. Someone else has an idea. We always want to make a science fiction. Okay, well... That's a good idea. So, no, there's no vote. There's a tendency, okay? There's a tendency, and some people really have, like, decide what part they want to play in this tendency, like, right? Like, my brother, Trevor, it's like, I want to be the uncle that takes him through and shows him my country. It's like, okay. There's
so everyone just kind of picks their own part.
They pick their own part. Their own, like, and if you don't care what your part is, then you just say, hey, what other part is there? So, like, cockadoo?
Yeah. Just whatever.
Cameron was like, what's my part? And we were like, I don't know.
Decide.
Yeah. Well, Natty said, what dreamings are left that we haven't done yet? And we said, cockatoo. And you're the cockatoo. but we shoot on the run. And I mean on the run. It's like, hey, are we shooting today? Who's around to do? Who wants to? You know, it's just, it really is radical errancy on, like, just beyond. So it's like, you know, we usually take like a weekend to do a couple days to do kind of heart of something. And then wherever we are, like, oh, you know the fracking scene where Kieran...
Explosions?
Yeah. Okay. So this is how that happened.
Juste before you take that, keep it, please. Donc très rapidement, il y a pas vraiment de système de vote et de décision chez les Carabins. C'est plutôt des tendances et donc une histoire un peu démarre. Et après, chacun demande, mais moi, c'est quoi ma place alors dans cette histoire-là? Ok, on fait un film de science-fiction. Moi, je vais jouer quoi? Ah ouais, moi, je vais faire ça. Donc au fur et à mesure, s'agrège des désirs, des possibilités à partir d'une espèce de dynamique de tendance. Mais c'est vraiment en fait une pratique aussi qui se fait en chemin dans une errance radicale. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un week-end. Tiens, on va faire un premier truc, mais on se retrouve là, tiens, on fait une scène, qui est disponible pour faire la scène? Et les choses quand même avancent de cette manière-là en additionnant des micro-désirs à partir d'une grande histoire. Et donc, il y a la scène du fracking, de l'explosion d'extraction dont va parler Elisabeth.
Ok, so, it was Kieran and I call him grandson, and a sister, who's a sister but not in Karabing, and we were driving from Beluun, because I need to get Kieran to school. And we pulled up, and there were another group of us who were coming back from another place. And they said, oh, and I said, where's Kieran's mom and her sister? Oh, they're trapped. There's a big fire. And they're trapped on that side.
Oh, that fire was real.
Oh, yeah.
What?
Oh, yeah. They're trapped on over by this place that we know, that was over by, I'm forgetting the thing, over there. And we're trapped over here. And I said, I got to get Kieran to school. Kieran's like, I need to go to school. You're going to school. And so I said, we can get through the fire. So we started into this fire, and it is a massive fire, like it's because there's a new kind of grass. It's a colonizing grass, poor grass. And as we're going into it, Kieran says, Nana, fire. Look at this fire. And I was like, yeah, it's a fucking big fire. We can get through it. He's like, no, the film.
maybe a transduction, like yeah, sorry.
Donc on emmenait en fait Kieran, qui est le jeune homme en fait à l'école, qui veut pas toujours y aller, en attrapant aussi sur le chemin d'autres personnes, et on se retrouve devant ce moment de ce feu qui sont en fait des feux dans des formes d'exploitation en fait. En fait, c'est des extractions, exploitations. Et donc, on passe devant, donc c'était aussi très impressionnant. Et donc, Kieran dit, regarde, le feu. Et elle dit, oui, bon, c'est vraiment dégueulasse. Tout ça. Elle dit, non, regarde le feu, le film. Et donc, voilà, l'idée aussi qu'il y a une espèce de décor comme ça pour le film.
Yeah. So we literally, because we shoot on iPhone, so we jumped out. Kieran and I jumped out. Yeah, we jumped out. And Diane, sister, was in there going... We're gonna die. And we're like, it's okay. We'll just take a couple shots. And we're running. And the mermaid's not there. And Kieran's like, there's no mermaid. I said, we'll just get Posey to answer you later. Just talking to the... And literally, we're beginning to suffocate. It was so...
Oh, my God.
But you know, we know. So that kind of... Like, we know what we're filming...
But it's just a spontaneity of it. It's just like I think that's really interesting to me. It's just like most of the time when you like look at a film or something like that, it's always like, okay, you're going to enter from the left side at 27 degrees at that, but that's just like, oh look, there's something really cool happening right now and we're just going to do it. I think that is just really interesting.
Yeah, donc l'idée c'est effectivement une espèce d'improvisation totale devant cet endroit et au moment où il faut filmer, et c'était quand même très impressionnant. Personne qui filmait dit on va mourir. Non, juste quelques images et puis on était aussi en train de littéralement suffoquer et puis comme c'est on pensait dans le film et c'est intéressant parce que ce que dit aussi Elisabeth c'est l'idée que le film et là on revient sur l'idée du dreaming ça devient en fait tout ce qu'on fait c'est le film. It devient and so the film became a kind of global thing that all we are doing is the film. Et donc l'idée que le film devient un objet permanent fait que chacun se dit le film et là on dit oui mais il y a pas les sirènes là, il y a pas ouais t'inquiète pas on les mettra plus tard à la post-production, on pourra les ajouter mais filmons maintenant. Donc I like that idea that a kind and it's something that we experiment too when with the group of Asian people we work with. We install the idea that we are permanently in the film. And so everybody is always talking about the films, you know. After a super long day, I remember for Mosticos, it was here in the kind of really a swamp in Haiti. I confess that I find a really nice hotel in the middle of a swamp because that guy have been get the dang because of me. It's true.
Yeah, he booked a hotel in the swamp.
Yeah, it was cheap. It was cool. And so all even the night people says, yeah, let's shoot the film. It was full of mosquitoes, so we are more and so c'est pour dire aussi que dans le cadre du film qu'on a filmé ouverture à Haïti, c'était la même idée qu'avec les Caraïbes, de dire on est tout le temps dans le film. Et donc après, le groupe de 10 personnes était toujours en train de parler de tout en termes de choses du film, qu'est-ce qu'on fait là pour le film, même quand on mangeait. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans un marais, un hôtel qui était pas cher. Et qui était au milieu d'un... Bon, en fait, quand on le book, on ne sait pas que c'est au milieu d'un marais. Mais après, évidemment, la nuit, c'est plus un endroit avec des moustiques. C'est juste... Il n'y a pas un centimètre carré sans moustiques, quoi. Donc, c'était hyper impressionnant. Et donc là, dans l'hôtel, l'idée d'aller filmer la nuit pour le film, tout le monde disait, allons faire la scène de nuit dans le film. Et vraiment, tout vrai dehors, c'était juste un enfer. Et j'aime bien l'idée de dire, oui, mais pour le film, et on a fait. Hein. Il faut le faire pour le film, sinon non. On a fait deux fois. Voilà, en ce cas. C'est pour dire que the idea of a film, of a global form of life, became something sometimes super dangerous, man.
the choice of making film in this errant way is not a choice. I don't think for the folks that you're collected with, and definitely not us, because the first two films that we made with it was small. We were talking about this somewhere, maybe this morning, I forget when. But no, maybe you guys were. Anyways, there is a small crew. It was a camera person, a sound person, and an assistant. And there were like 30 of us, so we swamped them. So that we make them small. Nevertheless, your producer, the form of production that has grown up around filmmaking presupposes a form of life that does not exist. Yeah, and not only presupposes a form of life, it tries to impose that form of life, right? And third, it tries to erase the constant scratching, creative scratching, but scratching, that is life there. So in all of our films, we don't try, I promise. We really try not to. But there is massive discontinuity everywhere, right? And the way I think about it is that scratch, that discontinuity and other things has a scratch on the surface, is truer than the smoothness. Yeah, right? The smoothness of these are hyper-produced, but in terms of color to get the ideas there, but there's something really wrong about... Yeah, there's something wrong about it because it eliminates... The errancy that is life. Yeah, ouais. Yeah, I think.
On a parlé de l'errance et Elisabeth dit, oui, effectivement, l'idée du film comme forme de vie est une idée, en fait, quelque part fausse. Qu'elle construit une vie qui n'existe pas, qui est le système dans lequel on est un système extrêmement discontinu avec beaucoup de frictions, de difficultés. Et au fond, le film a un geste un peu étrange de lisser tout ça. Et quelque part, la discontinuité, elle met un peu de la matière ou griffe un peu quelque part cette surface lisse du film qui est une tendance à faire des œuvres. C'est aussi... It's a movement of making something smooth, even if you don't want to. Et même s'ils ne le veulent pas, à un moment donné, il y a quelque chose qui va créer une forme de continuité, qui est une forme d'illusion, donc quelque chose qui est beaucoup plus discontinu, beaucoup plus fragmenté, et qui est beaucoup. But I think that we feel it, saying the film is not so smooth at the end. But I think I would like to ask you something about also. Yeah, the practice of, let's say, editing, coloring, agencing images, which is really quite specific. and is exactly something that doesn't create a kind of illusion of a kind of continuity and smoothness, but a kind of recovering something that is, yeah, up and down. And so it's not that idea of the continuity in the sense on the cell level, but we see at the same moment different level of reality, like the virtual and the actual, and also a certain kind of collapse in between images, collapse of color, collapse. Oui, je voulais que Elisabeth parle un peu de la manière de monter, de travailler la couleur, de travailler le rythme, d'agencer les images, puisque au contraire d'une forme discontinue, on dirait que c'est une forme avec plusieurs couches qu'on voit à chaque fois, la question de la superposition est très importante, et donc créer quelque chose qui met en relation ce qui est en dessous, souterrain, et comme dans la question de la cosmogonie aborigène, ce qui serait de l'ordre du virtuel et du l'en-dessous, et de l'actuel au-dessus, on le perçoit dans le film ensemble, quoi. Donc il y a quand même un geste qui est quand même un geste très particulier, je trouve.
Also the sound.
And we'll talk about the music really, and the sound.
Really important. The actual editing, no one has taken that up yet, but back and forth, since I'm always back and forth, and we can dump it quick, and we put it on, and so there's a lot of, but the actual editing is still just me until someone else will do it. But there's just a lot of back and forth, so that's one.
Juste pour dire que le processus de montage est un processus d'aller-retour, même si c'est à la fin plutôt Elisabeth ou une autre personne qui fait le montage, il est quand même dans un mouvement en fait de monter au fur et à mesure en fait.
For the color design and the superimposition, that was something that as a group, by the time we got to the end of the second film and really when we hit the third, when we began making them on cameras, we smashed up production process and just said, we're going to shoot this the way our life is actually, the rhythms of it. A question, by that time, everyone was saying, how do we show that these layers of continuity and discontinuity? And that's when we started thinking about layering.
Donc, la question en fait cette pratique en fait des différentes couches est aussi vraiment l'expression de la continuité, discontinuité, différents niveaux de réalité. On s'est posé à la fin du second film, on a commencé à développer une écriture qui introduisait en fait, en tout cas, ces principes de travail sur la couleur et de surimposition.
Yeah. So in Saltwater Dreams or Wuthar, it's really when we it was, you know, the question about why a boat broke down, and the different the argument that keeps us together around it, which is I've said before, it's some people believe it was Jesus testing us, some people believe it was ancestors punishing us, and some people believe we don't take care of the motors good enough, and the one of the protagonists ends up back in time, kind of. But she's not back in time. All the times are in the space she's in. And that's when we got old films. So we started just really layering. So using a simple technique, a film technique, in order to talk more complexly about, and talk against the temporal ordering of dreaming in liberal governance, that there was a pure time there. And then it's slow, the pure, authentic, originary moment, and then it's all become more corrupt and diluted. And we're the ability to layer says, no, it's always been these juxtapositions of time and difference.
Donc avec la technique de la surimposition, notamment dans le film qui s'appelle Saltwater Dreams, se posait en fait presque une problématique en fait de réalité multiple, puisqu'en fait il y avait plusieurs opinions par rapport à l'origine d'un problème. Et au lieu de les traiter, d'en choisir plutôt une.
Loss of tradition, so yeah.
Yeah, yeah. Voilà. Donc il y avait plusieurs en fait, approches et, voilà, à la fois spirituelles, à la fois matérielles, qui expliquaient un phénomène. Et au lieu d'en choisir une seule, où au lieu de les montrer les unes après les autres, le film les montre toutes ensemble. Et donc la juxtaposition et crée aussi un effet visuel de surimposition, au même titre que le mode de récit libéral, on va dire occidental en fait, qui poserait l'idée d'un moment originel qui serait pur, intouché, sacré, et puis d'un moment présent qui est détruit. C'est casser cette mise en fiction de ça en disant que depuis le début, toutes ces réalités-là existent en même temps. Elles ne sont pas successives, mais elles sont concomitantes, elles sont en même temps. Donc c'est aussi repenser le rapport au temps et la manière de raconter le temps dans le cinéma en essayant de sortir des modes narratifs qui mettent un passé idéal et un futur détruit en disant que tout ça a toujours existé en même et avance en même temps. What it led a kind of hope that the something nice is still there too.
That's right.
Yeah.
Yeah, and that's also that was the film in which we also I remember it was Daphne who said we need to put it was about ancestors as part of this. We need to put in the ancestors. And so on the one hand, we use old footage. On the other hand, she was like, but what about the eyes? Because we can see the eyes. And so we experimented with what kind of color design. But it was exactly at this moment that we also found out we didn't care whether viewers understood that what they were seeing were the eyes, the glowing eyes of the ancestors. What we cared was that as we were making it and then watching it together, we were, again, continuing a mode of understanding the world visually.
Donc, oui, dans la question, en fait, une question s'est posée à un moment donné de la représentation des ancêtres. Et il y avait l'idée, en fait, de l'image d'archive. Mais il y avait aussi la question de l'œil comme élément de représentation des ancêtres. Et on s'est posé la question de comment le faire. Et c'est là qu'est venu en fait aussi un autre aspect du travail du Carabing, de dire ce qui est d'abord important dans le Carabing, c'est que nous, en tant que Carabing, on continue à essayer d'imaginer visuellement le monde pour nous, ce que comprendront des gens qui sont extérieurs à cette vie, à cette pensée, à cette cosmogonie, n'est pas le plus important pour nous. Et le plus loin qu'ils seront même de notre manière de penser et de vivre, le moins ils comprendront, et le plus ils seront proches, plus ils comprendront. Donc il y a aussi cette espèce de différentiel with opacity, différents niveaux d'opacité qui sont assumés, en partant du principe que le film est d'abord fait pour que la communauté réfléchisse à comment se représenter elle-même.
So we want to maintain a distribution of the senses. We're not hiding it from the viewers. We don't say you can't know. Say in Mermaids, we know, and I say we all Carabing know that most of you will not even know what a pelican sounds like, let alone all the other sounds that you're hearing, right? But we are in the making. Continuing to make generations and each other know that if, right there, we know what's going to happen with Aiden because we heard what came out of his mouth. So we know what's coming. But why tell you? It's not hiding and it's not translating.
Voilà, donc la question, pour reprendre un peu l'idée de Jacques Rancière sur la distribution du sensible, c'est que le principe, quoi, l'idée en fait de Carabing, c'est de se dire qu'on sait bien en fait que le spectateur lambda ne sera pas vraiment en fait ce que raconte le son du pélican, par exemple. Mais nous, on sait que quelque chose se passe à ce moment-là. Cette chose-là n'est pas cachée, donc ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas. Il n'y a pas un désir de traduction. Il y a un désir en fait de pratique et d'une pratique du partage. We talk about this often about that the fact that is not a traduction, but you have to perform something to understand something. Donc il y a l'idée aussi de participer à quelque chose et le niveau de participation. Il y a aucune porte qui sont fermées. Il y a pas de porte, mais il y a des niveaux d'implication et de participation et d'incorporation ou d'incarnation qui sont différents et qui participent à une compréhension qui n'est pas une compréhension qui va passer de celui ou celle qui participe vers ceux qui ne participent pas par un principe de traduction. Il y a un principe de distance, mais « we want to come closer, can ».
Celui ou celle
qui veut venir plus près peut.
So, but what we have noticed by the time you have come close enough is a duration as well. It's not just proximity, it's a durative thing. And by the time you have come, you have been pulled in or stayed close, you won't act. You get reformed. So you won't be translating either.
Oui, et après la question d'être en relation n'est pas une question tout à fait de distance, mais plutôt une question de durée. C'est-à-dire que c'est le temps qu'on va passer en relation avec ces questions qui va faire qu'on va en être beaucoup plus pénétré. Mais finalement, lorsqu'on est à l'intérieur, on n'aura pas forcément du coup envie de traduire parce qu'on aura envie d'agir. On aura envie d'être dans la chose. Donc, de nouveau, la question de la traduction n'est ni un enjeu pour ceux qui ne sont pas dedans et ni un enjeu pour ceux qui vont passer du temps dedans, puisque c'est par le... It's to come back to what you said. It's through the gesture of doing something that there is a kind of knowledge that is inscribed. C'est la question de la... C'est dans le geste de participer à... Là, on a vu la boue, ou de creuser dans la boue, qui est un mode de savoir, et il n'est pas un mode qui peut être traduit dans autre chose. Et incorporé, voilà, de savoir et d'incorporation, qui ne peut pas être traduit dans autre chose que dans une pratique de la boue, par exemple. C'est à l'intérieur de ça que le savoir se trouve.
Yeah. You've just responded to what I was going to ask. When you spoke about not caring that people understand what the eyes signify, and I was thinking about the conversation. Many people weren't at Reed Hall today, but there was a conversation about what Olivier and Beth are just talking about in terms of transmission rather than translation. Of course, it depends how you understand translation. This is on the supposition that we're understanding translation is sort of one source meaning that gets carried over to another one, and there's a kind of transmission of meaning that remains intact. But also, so I want to continue the conversation from today, but also I'm trying to think about what it feels like to be a member of the audience here tonight who doesn't know anything about your work, who's never seen the films, and you began by wonderfully explaining dreaming. And so, like, what does that mean to actually explain that straight after the film? And I was, when you explained dreaming as the ancestral present or presence, I went to write it down and I pulled out a scrapbook from my bag, and there was the page I opened was a talk you'd given 2 years ago just by chance. And I saw some notes where you were talking about your colleague Audra Simpson and her work of ethnographic refusal. So this idea, you know, obviously the history of ethnography and anthropology is complicit with colonialism, and this idea of explaining the other, right? And rendering the other transparent, rendering the other translatable, let's say. And then what I'd written underneath was, and it sort of surprised me to read, that you said, giving an account of oneself is, to be able to give an account of oneself, or having to give an account of oneself is actually being not in a position of power. And it's kind of paradoxical, because today there was this discussion about the kind of toxicity of major narratives, and then this cacophony of narratives that are formed through a strategy of errancy, which isn't really a strategy. So it's not really an intentional giving an account of oneself. But obviously we can think about the sort of necessity to resuscitate minor histories in the face of this big toxic narrative that we're pushing back against. So one would think that one would want to be able to give an account of oneself. But what your films are showing and what your work shows is that actually some people like your family, the Karabin Collective, are forced to give an account of themselves. And this is the problem, right? In terms of the politics of recognition, they're forced to perform in a certain way. They're forced to be rendered transparent. So there's this kind of interesting paradox about being able to be oneself and being able to I don't know, articulate oneself in a certain way, and being, and this demand to articulate oneself. So maybe you can just say more about that paradoxical position that the film, it's kind of in between. It's refusing that demand, and yet it's trying to do something else.
I think I can translate. It's a bit too long. I'm sorry, but I think En tout cas, ce que je peux peut-être juste préciser, c'est que c'est de réfléchir, en tout cas, au paradoxe de l'opération du film entre une forme affirmative d'une forme de vie, d'une forme d'expression, donc on pourrait dire d'une forme de la question de la reconnaissance est juste cet endroit, en tout cas, tenir compte de la présence de l'autre, une présence une affirmation de soi. Et la question dont a parlé juste avant Elisabeth, c'est-à-dire de ne pas faire les choses pour quelque chose qui est extérieur, ne pas le faire contre ou ne pas cacher de choses, mais ne pas le faire pour, c'est-à-dire ne pas créer de forme de transparence. Et donc, il y a le paradoxe à un moment donné avec le niveau d'exposition de Carl Brink aujourd'hui, qui est un travail qui est de plus en plus visible. Et donc, il y a un point de tension entre la reconnaissance d'une présence et quelque part une captation de l'attention de l'autre. So there is something in between the attention, the affirmation of a presence and the captation of the attention of the other.
I wish I wasn't sitting here alone, but there are many ways that different ones of us have responded to these kind of questions. And one of the ways, and I think this is Angie says this most, Angelina Lewis, like we say pedagut for a white person, pedagut. Pedagut expect everything for free. And I think that is a accurate account of what translation means when you look at the demand from, say, a settler or colonizing point of view. Oh, we really want to understand you. Can you explain yourself? Right? It's really asking for it for free.
We'll give you a stage.
Yeah, but I can't understand you. Could you do it more? I can't understand. I really put it in my terms.
Yeah. Donc, juste pour dire la première, on pourrait avoir différents types de points de vue par rapport à la question qui a été posée, parce que Carabin est aussi un groupe collectif, et donc le vécu de cette question-là est très différent selon les personnes. Mais si on peut poser la position, c'est que avec une audience extérieure, qu'on pourrait dire dans ce cas-là blanche au sens politique du terme, aussi au sens colonial du terme, il y a le désir de dire « bon, on a envie de vous comprendre ». Expliquez-nous pour qu'on veut vous comprendre. Donc maintenant, voilà, je vais mettre des moyens pour que... Maintenant, venez vous expliquer. It's a kind of police.
Yeah. Yeah.
C'est dire, voilà, moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre. Donc, il va falloir faire un effort pour que moi, je comprenne. Parce que sinon, ça ne va pas. Il y a une forme de problématisation du fait que celui qui a les moyens de créer les conditions de visibilité ne comprenne pas. Ce n'est pas acceptable.
I don't know what it's like for all of us don't know what it's like for the audiences. So when we go around together, it's really interesting to us what we hear. And one of the things that I think we feeling from the outside, which I find fascinating, is the audience's feeling that the story is right there, it's right in front of them, but you're not explaining it to us, right? And we always laugh. It's like, that's right, it is right there. It's not surreal. It's not, or the other thing, you're like, you've become so surreal, everyone's become so surreal. And we're like, no, and this is more real. We don't know about stage right or left. We never went to school, so fuck it. We come from every which way. But that is, I think, I wouldn't say it's intentional. It's just that because we make them ourselves and it makes sense to us, and I'm editing so that, you know, there's a story and like we can follow it, right? That what the affect we create is one that says, I'm used to being explained to, right? And that is a politics. It says, yeah, it is. It's complete. Well, explain it to me. What are you going to do to get that explanation?
Il y a l'idée, il y a ce problème, cette problématique-là, en fait, de finalement montrer une forme qui est une histoire, en tout cas qui joue avec l'idée d'être une histoire, qui is playing the story, qui donc qui joue le jeu de l'histoire et à la fois qui comme nous, là je parle au nom de Carabing, on est impliqué dans le fait de faire cette chose aussi pour nous, pour qu'elle ait un sens pour nous, on se retrouve à un moment donné en face de quelqu'un qui dit, moi j'ai besoin qu'on m'explique ce que c'est, l'histoire est exposée, on peut la voir, on est en face, et pourtant on ne nous donne pas les explications, comme une forme de pression politique, de dire, il faut... It's when you're coming to the police, come to you and say, please explain me what you are doing there.
I'm there.
Why should I explain it? Yeah. And so, c'est, il faut expliquer sa présence, puisque maintenant que l'objet est là, the film becomes a kind of being, a problematic being. The person is there, but should not be there, but think, okay.
It's toxic.
Yeah.
It's kind of toxic because it explodes my way of apprehending. I feel a different distribution of the senses, right? But it is not one that I can comprehend.
Yeah, on sent en fait c'est sentir qu'il y a vraiment voilà de une distribution du sensible, mais que c'est pas quelque chose qui peut être justement embrasé en un seul fois. It makes me think about.
Just... You can follow the story, yeah. There's a kid, he gets skipped. Yeah, that's enough for you. And if you.
Yeah, sorry.
It was just to tell about that really situation of in the book we talk about is Travel of Us, Chamoiseau book, L'Esclave Vieil Homme et le Molosse. And in that book, there is a lot of super fascinating things. But there is one scene which is totally incredible, is that there is a storyteller for the slave. And he's storytelling for the slave on the evening, all tales and so on. And so the white settler decide to come to a kind of evening party and to listen to have the pleasure to listen there. And it's nice because I think it put the fact that he refused that any story can be told without his presence, even stories for a kind of reconstruction, a recomposition of the slave life. He refused to be outside of that. And what is nice, there is a figure, the old man, old slave, and he stay mute. And he says, he decided not to talk when the master is there, and just listen to the tale, to the storytelling, and travel with it. Because he says, for me, it's not only a story, it's a trip. And c'est l'histoire dans le livre de Chamoiseau de l'esclave vieil homme et le molosse, où dans cette histoire-là, il y a vraiment une scène très belle où en fait le propriétaire de la plantation vient s'installer au milieu du conte créole et le conteur qui raconte des histoires aux esclaves le soir comme un moment de recomposition du monde esclave, il vient squatter ce moment-là pour dire même ça, ce que vous faites, je veux pas que ça se fasse sans ma présence. Donc il vient s'installer dans une chose où il n'est pas invité, et il a le plaisir d'écouter la beauté du conte, et le vieil homme qui est là, le très vieil esclave, lui dit juste, je ne parle pas en sa présence, mais par contre, moi, j'écoute le conte, qui n'est pas une histoire, qui est une forme codée de voyage. So, the differential of the reception of something, I think it's a bit the same with what you are doing with Carabing. They're saying, okay, we see the same thing, but some people saying that, something else happened to them. When they see it, because it's not only a film, it's something more for some people.
It's a shame to talk about what we did today for people that weren't there, but most people were there today, kind of. So Olivier and I showed a clip from the forthcoming film Ouvertures by the Living and the Dead Ensemble, in which there's two characters or two people, Léonard Jean-Baptiste and James Désiris,
and they're discussing this the spiral, this form of the spiral, and how it might relate to the to Haitian Creole, to the language. And there's a moment there that's really interesting where one of them, Leo, starts to speak about, you know, precisely this idea, which ties in with this story of, because what, like, Olivier's talking about with this book by Patrick Chamoiseau, The Slave Old Man, is also like how the storyteller, the Creole storyteller, does not only use Creole, because even the slave master can speak bits of Creole, he can understand Creole. But then Patrick Chamoiseau talks about these moments when the storyteller does these other types of vocalizations, like grunts and squeals and things that, like, the slave master cannot understand, and it goes kind of beyond his comprehension. And so in the scene with Leo, he's talking about how Creole, like, even if it was a form of communication between slave and master, it was also a way in which they could escape giving meaning, because of the way that it has like, each word has, he says like paquet image, has lots and lots of images. Chaque mot gain paquet image, which is beautiful. It's like, you know, which is not unique just to Creole, for example, but that's something which is particularly, and then he relates that to camouflage and marronnage. Anyways, and that just got me thinking about these ideas as well, of spiraling out of certain centrifugal forces. And then, you know, there's this thing I'm obsessed with, which is this small interview with Fred Moten in a book of his poetry called Words Don't Go There. It's a book called, it's a book of his poems called B. Jenkins. And it's just this little bit where he talks about, and I think we spoke about this a bit before, but he talks about this aesthetics of obscurity, like he's purposely trying to obscure things with his poetry, obscure meaning. And he talks about how art or poetry for him should situate itself, what he calls, in the sort of peripheries of communication, which maybe you don't agree with, but that's...
I love the idea. It's just, that's not... I mean, what's interesting is there is no... If you were sitting with those of us who were raised within this way of existing, there is no obscurity. There's no obscurity. There's no... And nothing is being made obscure. It's just that you need to be in that world of existence, right? You have to have been willing to be ordered by it, i.e. giving, as we were talking this today, giving yourself, not putting yourself in, but allowing yourself to be reformed by.
But I don't, yeah.
It's not obscure.
No, but it's not that the obscurity is being formulated.
Wait. No, you're right.
It's not that the obscurity is being formulated, but in the resistance to make it clear, it's being left obscure for those that don't know.
Yes. That's right.
Très rapidement, c'était pour dire que donc Louis a fait un long chemin, mais pour dire en tout cas que dans la question, dans la question de la pratique du créole, il y avait aussi cette idée, et dans le film qu'on est en train de faire, un des personnages en parle, qu'avec chaque mot gagne un paquet d'images, ça veut dire qu'à ensemble d'images, et quelque part, le sens échappe, et même si... Voilà, dans le cadre plantationnaire, ce que peut-être des gens ignorent, les maîtres savaient un peu parler créole, beaucoup parfois, ça dépend des endroits, mais que la question même de parler la langue n'était pas ce qui rendrait transparent la situation ou traductible, parce que dans la langue encore, la question de la poétique, mais ça c'est vrai dans toutes les langues, la question de la poétique crée aussi des possibilités de camoufler et de marronner depuis le sens. Et Louis parle aussi de Fred Moten quand il parle aussi de la poésie comme manière de laisser dans l'espace obscur certains sens. Et donc Berthe disait en fait qu'il n'y a pas de choses dans la partie obscure, en fait, mais c'est parce que les choses sont faites à partir de certaines manières de faire ensemble. Moi, I like that either because I think it's come just... Yeah, in the same way that I try to share Wednesday evening with the George Washington Carver, which is that kind of black man in the pattern of flowers, is like a tapestry, so there's nothing hide. The pattern is there, But just looking in the pattern, once you see, hey, there's a man. Yeah. Voilà, l'idée, c'était aussi cette idée dans la lecture que j'ai proposée mercredi, de dire que peut-être les choses ne sont pas cachées au sens, c'est plutôt caché à la surface du visible, exactement comme le jardin créole des esclaves n'était pas, comme certaines personnes pensent, soustrait au regard du maître, mais était fait dans la plantation avec l'autorisation du maître, mais à l'intérieur de cette manière de faire se cachaient des choses. Quelque chose qui est caché dans le visible. Something is in the visible. So as it says, nothing is hide, but you have to have a certain experience of the visible to see it. C'est comme un motif dans lequel, à force de le regarder, on finit par voir une chose qu'on n'avait jamais vue et qui était cachée à l'intérieur. Et je pense que la question de certains types de pratiques, aujourd'hui dans un monde ouvert et global, ce n'est plus de se cacher dans l'obscurité, mais se cacher dans le visible.
Yeah, I think Fred is indeed arguing that he is going to leave it obscure for you, yeah. Right? I think my reaction is always based on that you is always, you know, saying you're being obscure, and it's like, no, you just don't understand and don't have the right to. So that's my reaction, but I think that's right. Fred is really working in that space of the visible, but the not visible to you.
Oui, yeah. C'est pour traduire ça, oui, donc on parlait de Fred Moten, qui est donc un universitaire et un poète africain-américain. Avec cette question d'obscurité, où justement Elisabeth le voit un peu différemment, on considère que quelque chose est obscur pour quelqu'un qui n'est pas dans l'espace où la chose se fait. Donc ça peut être l'auteur, mais ça peut être un ensemble de gens. Il n'est pas dans cet espace-là, et dans un autre espace, ce qui crée une forme d'obscurité, d'opacité. Mais Elisabeth réfute un peu ça en considérant que c'est d'abord une certaine distance, et comme on l'a dit avant, qui n'est pas qu'une distance physique, qui est aussi une distance temporelle, d'un temps passé avec. Et c'est vrai que, par exemple, dans les littératures créoles qui ne sont pas écrites dans un français classique, on est un peu perdu, et c'est une littérature qui est fabriquée pour qu'on soit un peu perdu. L'expérience littéraire propose une certaine forme de vertige, non pas comme une chose dissimulée, mais comme un effet de présence. You want to say something?
And I know it's getting late. I have no idea.
Yeah,
I would go on. The trouble is, we will go on and on forever.
I can have this conversation with Louis later, but maybe just to say, I would imagine if Fred Moten's talking about poetry, it's a very specific form. It's completely different to, I mean, there's poesis in terms of making, but the form of poetry is, I imagine you're not intending to operate in that quick. Yeah, okay. I imagine given that, oh, no. I imagine that given that Moten is very influenced by deconstruction and Derrida, it's not a case of withdrawing something, but it's of revealing that there is something that cannot be revealed, which is different to withdrawing, I think.
Oui, c'était pour préciser que le contexte, en plus de placer Derrida, Sheila voulait préciser que dans le compte, en tout cas de la filiation entre Derrida et Moten qui est quand même importante, que Moten parle de poétrie, de poésie, excusez-moi, là c'est la fin, ça commence à être de poterie. Non. J'arrive à des moments d'un peu de poésie, et donc évidemment le geste de Carabing est un geste de poésis au sens de, voilà, de faire et de faire, et que c'est Moten, on est vraiment dans la question de la poésie comme une forme codée de la langue. Même si je pense qu'en fait, il y a de toute façon un problème en tension avec la notion de l'obscurité dès lors qu'on a été défini comme peuple non occidentaux, comme des peuples obscurs. Et donc le désir d'obscurité est toujours une espèce de tension, et je pense que Moten comme il l'a fait avec la question de l'animisme, en gros, dire que l'esclave est un objet et dire lui, mais c'est un objet qui parle. Je pense que la notion d'être poussé dans l'obscurité ou pensé comme obscur, lui, il le retourne en essayant d'avoir une forme affirmative de l'obscurité.
Voilà, t'auras à traduire en anglais. Moi, je ne vais pas avoir une approche par rapport à la question coloniale du tout, mais vraiment cinématographique, parce que il y a une très grande jouissance à être dans un récit circulaire. Enfin, je ne peux même pas parler de récit, mais dans une transmission circulaire tout le temps. Peut-être justement la narration habituelle blanche, elle est directive. Et là, on est constamment dans des cercles, dans des spirales. Et aussi pour la sirène et l'ancêtre qui se retournent l'un contre l'autre ou plein de figures comme ça. On retrouve quelque chose du temps cinématographique, enfin, que seul le cinéma peut réouvrir ces temps-là, en fait, comme langage. Voilà.
Yeah, just to say that in fact, that of course, there is also something that she said. I can't talk about in the colonial perspective, but saying in cinematography, what I've seen is really that kind of experiment of the spiral retelling, which is really different than a classical narrative linear, and so where the different times, different characters are always put in a kind of spiraling things. And so, and you finish with the saying, and so it could be a question that only cinema can do that. So why do you think? Because you choose cinema as a medium, so perhaps saying, I think that cinema can make some specific immersive operations, but I think you can answer that and just also answer about the sound, because we didn't talk, we can finish with that if you want to. Avec la question aussi du son, je voulais aussi qu'elle soit évoquée.
Thank you. Yeah, but in the third film when we, I don't know, we felt liberated from something. That, not circularity, but spiralingness definitely started, right?
À partir du troisième film, on s'est vraiment senti libéré avec en intégrant ce geste de spirale dans notre manière de faire des films.
The question for me is, in relation to the question, is does cinema must have a specificity for how it allows you to see, sound that movement? But there were performance styles that spiraled as well that are being drawn on that were not cinema styles. There was no cinema, right? But this, the movement of things that happened and then happened again and then re-happened again and they're happening still. Yeah, the transform. Yeah, where is, I think, in the logic of how they understand existence and that it's like that earthquake. It's formative. Makes in that.
Voilà, pour dire aussi que la question de est-ce que le seul cinéma peut produire ça, Elisabeth répond aussi en amont même du cinéma, dans les formes de vie dans lesquelles ils sont, dans leur expérience de vie, la question de cette forme en spirale, d'une répétition différente, est très fortement inscrite. Donc ça devance peut-être même l'art du cinéma dans, ce cas, dans leur cas en tout cas, qui est vraiment inscrit dans leur manière de concevoir la vie. Quoi.
But the reason we chose cinema was not for what cinema could do. We chose cinema because it acted as bait, like a bait. That everyone, we found everyone biting.
Oui, c'est l'idée que en fait c'est pourquoi on a choisi le cinéma c'est pas pour ce que le cinéma peut être, mais comme une forme d'hameçon. I know that Elizabeth Stengers will say un appât, en tout cas quelque chose qui peut attraper, qui...
ouais, d'être saisi.
Et c'est quelque chose qui a une capacité d'attraper les gens.
Bait is not a net. No, it is bait, and we use that. We are still hunters, so we think in terms of baiting.
On est toujours des
fishing,
chasseurs,
but
donc
also,
on pense en termes de chasse.
Yeah, what will they bite? And since the whole project is not to produce cinema or produce art, but to continually actualize the virtual.
Bait is about desire.
Yeah, it's about desire. Right. Exactly. Yeah. Yeah, but this is we need you to bite, right? We don't want to capture you. Yeah, ouais.
Ouais, c'est voilà, c'est pas une capture, c'est vraiment la question de mordre à l'hameçon, mais c'est aussi une manière de sans cesse réactualiser la manière d'être à travers ces formes. Donc, c'est pas non plus produire un cinéma pour produire une industrie culturelle, mais vraiment dans un processus de faire en, ouais, d'attraper des gens dans cette idée en même temps. So with that idea is I'm just coming back to what Shella.
I know we're going to go.
What Shella says and proposes, it was of course that paradoxical aspect of in certain way actualize their own culture, trying to tell yourself, trying to your presence. But there is that aspect of a kind of even if minimum seduction. What she says, we need that people to care. And so there is that tension of you need that some people a bit have to bid.
Wait. And one of the things we talk about, and we talk about in these terms, is like when we tried different things to get everybody to. It was very precarious situation to keep everyone together and oriented toward a certain vision about existence, sociality. And we were trying various things, and we just found that when we started making films, everybody bit. Then what we knew is that that's all we knew at the beginning. And then we noticed that, outside of us, people are biting what we're making. Then, yeah, absolutely. And then, of course, because we do, we're in constant relation to things that we eat or can eat us or we fall into or we plunge into or we want it to plunge into us. We know that, for instance, if you punk and you catch too big of a fish, it will cut your finger off.
No, not too big.
Not well, or you have to know what kind of fish is in there before it cuts your finger off, because the line. And, you know, we've all seen bone. I've had bone. I have scars everywhere. So the question is, like, how do we get us to bite? How do we get the exterior to bite so that it moves and we can move, but not have our fingers and toes cut off?
On va finir par ça avec une petite traduction très rapide. Oui, c'était pour dire qu'en tout cas, on a essayé plusieurs types de choses et dès lors qu'on a commencé à faire des films, tac, ça a mordu. Alors, on a commencé à mettre nos canapés, zip, zap, stop. Je l'ai fait. Et alors, voilà, là, il y a une question d'essayer de pêcher au sens de pêcher inattention, d'avoir. C'est aussi une question de subsistance et de régime d'existence du groupe qui est très précaire. Et donc, mais à la fois, il y a cette précaution, comme dans la pêche en tant que telle, de faire attention à sentir ce qu'il y a au bout de la ligne, parce qu'il y a le risque après de se couper un doigt avec la ligne, de se faire manger un doigt par le poisson. Donc, toujours cette espèce de mouvement aussi permanent. Qui permet d'essayer de faire attention à pas non plus de pêcher des trop gros poissons, qui t'emmène peut-être trop loin de ce que tu veux faire. On va finir par cette métaphore de la pêche, c'est une fin comme une autre. Merci à tous.